On m'avait désigné comme première étape un village de bois perdu dans les brouillards où je ne devais pas compter sur une auberge, mais où le curé m'offrirait, si je frappais à sa porte, un déjeuner frugal et la cordiale hospitalité des premiers chrétiens. En effet, après une longue ascension qui m'avait mis en appétit, je rencontrais quelques chalets éparses au milieu des sapins et des rochers. Un joli petit clocher au toit élancé et brillant occupait le centre du village. Une maison un peu mieux bâtie que les autres y était adossée. On me la montra comme celle du pasteur. À mon premier coup de sonnette, il vient lui-même ouvrir sa porte, m'introduit dans une salle toute tapissée d'images saintes auxquelles se mêlaient quelques portraits d'illustres contemporains, et, allant au-devant de ma demande, me pria de m'asseoir à une table très proprement servie, où brillaient d'appétissantes châtaignes, du beurre et des fraises. Je lui prouvai à propos de l'offre par la manière dont je fis honneur à son déjeuner. La première faim apaisée, nous passâmes à la conversation. Elle promettait d'être intéressante, d'après l'intelligence qui perçait à travers les yeux et le sourire bienveillant de mon hôte. Je m'apprêtais à lui donner tous les bruits de la politique et du monde, fruits rares dans ces régions élevées, et dont tout voyageur bien appris doit payer un bon accueil. Mais le bon curé n'avait presque rien à apprendre de ce côté. Jeune, instruit, plein d'esprit, il avait emporté avec lui, au milieu des bois, une bibliothèque très bien choisie, et paraissait avoir fait de ses hauteurs un observatoire d'où il suivait avec intérêt tous les mouvements des peuples et des rois. Nous étions en 1832. La Révolution grondait encore dans les rues de Paris et dans les couloirs des assemblées. Le curé connaissait aussi bien et mieux que moi les partis qui, en France, se disputaient le pouvoir et les orateurs même secondaires qui s'en faisaient les organes. On eût dit que le vent qui soufflait dans ses sapins lui apportait les orages des chambres, les murmures de la place publique et jusqu'aux soupirs et aux regrets des exilés et des vaincus. Après les adieux et les remerciements les plus sincères, je pris sur l'indication du curé un petit sentier qui traversait une montagne plus haute que toutes ses voisines, et qui, décoré du nom de grande route dans une région où les cantonniers et les visiteurs n'arrivent pas, conduisait en droite ligne dans l'une des villes principales de la Maurienne. Le village que j'abandonnais était perché aux dernières limites du monde habité et presque de la végétation. À une demi-heure de là, les arbres commençaient à devenir arbustes, et un peu plus loin, les arbustes eux-mêmes disparaissaient. Il ne restait plus sur la terre qu'une herbe dure, sèche et courte. Dernier vêtement dont elle se dépouille avant de se cacher sous un seuil de neige. Là, aucun oiseau ne chante, aucun insecte ne bourdonne, tout est silence et désert. Mais aussi, comme l'âme est fière sur ses hauteurs, on dirait qu'elle se sent poussée des ailes et qu'elle échappe à tous les intérêts comme à tous les bruits du monde. En parcourant majestueusement ces espaces, il me semblait que j'avais déjà escaladé les premiers degrés de l'échelle qui devait me conduire au ciel. Malheureusement, je fus rappelé sur la terre par la plus prosaïque des impressions. À mon arrivée à Aix, après 15 jours de course dans les montagnes, mon costume avait beaucoup perdu de sa fraîcheur. Mes chaussures étaient encore plus entamées que le reste, car elles s'étaient heurtées plus d'une fois contre les pierres du chemin. Aussi, pour faire mon entrée dans le salon et sous l'influence de l'esprit mondain dont je sentais en moi se réveiller le souffle, je m'étais adressé au bottier le plus élégant de la ville, et j'y avais choisi des bottes de fort belle tournure qui me chaussaient à ravir et me faisaient, à mes yeux, les plus jolis pieds du monde. Elles exigeaient bien pour les mettre quelques efforts que j'attribuais à leur début et le jour de mon départ, ne voulant pas changer mon sac d'un luxe de chaussures, j'eus l'heureuse idée de m'en servir. Je pensais qu'une ou deux heures de marche, un peu forcées, auraient raison de leur résistance, et que si elles se déchiraient aux ronces de la route, j'en serais quitte pour les remplacer à la prochaine ville. Hélas, j'avais très mal raisonné. Au lieu de s'élargir, la prison de Saint-Crépin, comme on dit, se rétrécissait à chacun de mes pas, si bien qu'arrivé au sommet de cette montagne, dans une espèce de plaine aride qui n'avait que des pierres aiguës pour gazon, il me devint impossible d'aller plus loin. Qui ne sait la douleur d'une chaussure trop étroite, et qui n'a pas maudit 100 fois cette torture imposée par la mode ou la coquetterie? Mais au moins dans un bal, au milieu d'une fête, quand le supplice devient intolérable, on se sauve en voiture ou en fiacre, et bientôt la douce et débonnaire pantoufle vous a consolé de votre passager martyr. Ici, la fuite est impossible, et la pantoufle a 100 lieues. Pour me soulager un moment, m'asseyant sur une pierre un peu plus large que les autres, je n'eus rien de plus pressé que de sortir mes pieds de leurs entraves. Et je laisse à penser quelle impression de bien-être succéda à ma longue angoisse. Après une bonne heure de repos, le soleil commençait à baisser. Il fallait reprendre la marche. Je songeais, en frémissant, à me remettre les fers aux pieds. Mais j'eus beau essayer de toutes les façons, m'y reprendre 20 fois, employer tour à tour la force et l'adresse, mes malheureuses bottes ne voulurent jamais me recevoir. Je me tordais les pieds, je m'écorchais les mains, je dépensais tout ce que j'avais d'énergie. 20 efforts. Tout cela n'aboutit qu'à arracher de mes rebelles les attaches par lesquelles je pouvais les saisir. Que faire devant cette impuissance? La nuit arrivait à grands pas, et j'étais peu tenté de la passer à la belle étoile, ne sachant quel autre des bois voisins pourrait venir me visiter. Continuer pieds nus ma route si hérissée, c'était me condamner à rougir de mon sang les pierres et à me blesser pour longtemps. Dans mon désespoir et tout haletant de ma lutte inutile, je m'étais couché par terre, la tête appuyée sur mon sac, mon seul compagnon, jetant un douloureux regard sur ces bottes devant lesquelles venaient s'échouer mon voyage et ma destinée. Tout à coup, sous la pression fébrile de ma tête enflammée, mon sac s'ouvre et laisse échapper sur le sol une partie de mon mince bagage. Que n'aurais-je donné pour y trouver la moindre paire de souliers, la plus grossière des pantoufles, ou même le plus lourd et le plus mal tourné des sabots? Mais dans mon imprévoyance, je n'avais jamais pensé à me charger d'un pareil butin. Et je voyais avec indifférence s'étaler devant moi la chemise et la paire de bas qui composaient presque tout mon mobilier. En me relevant pour les ramasser, quelque chose tombe à mes pieds avec un bruit sonore. J'y porte les yeux. C'était un rasoir que j'avais emporté par mes gardes, car la barbe, dans toute sa liberté, est un des privilèges les plus appréciés du voyageur. Ce rasoir me fut une révélation, et comme un instrument de salut envoyé par la Providence. Je me jette dessus et me voilà sabotier improvisé, taillant à grands traits dans mes bottes une paire de souliers. Je ne prétends pas que l'ouvrage fut fait selon les règles de l'art. Probablement, sans de très puissantes protections, il n'aurait pas été reçu à l'exposition universelle. Mais l'essentiel y était. Mes pieds purent y rentrer sans effort, et s'y trouvèrent fort à leur aise, car je leur avais ouvert des portes et des fenêtres d'une largeur suffisante. Je les avais débarrassés de ce long et étroit corridor, de ce détroit qu'ils n'avaient pu franchir. Et tout fier de mon talent et du succès de mon premier travail, je me hâtai de reprendre ma course. Après une descente rapide, dans laquelle je courais comme un échappé de prison, j'arrivai, la nuit close, dans un petit village où j'eus quelque peine à faire comprendre au seul habitant, qui n'était pas encore couché, que j'avais faim et sommeil. Mon français finit cependant par s'entendre avec son patois savoyard. Il me montra, à quelques pas de là, une méchante cabane ornée d'une branche de pin. Il me fallut encore bien des coups de pied dans la porte, à laquelle on avait oublié de mettre une sonnette, pour décider un gros bonhomme à moitié endormi à me demander ce que je voulais et à me faire entrer dans sa cuisine. Lorsqu'il eut appris que je venais souper et coucher dans sa magnifique auberge, ma qualité de voyageur français, que je lui déclinai dès qu'il fut tout à fait réveillé, parut produire chez lui une heureuse impression, car il appela sa femme d'une voix de tonnerre. La pauvre femme accourut, en se frottant les yeux, se hâta d'allumer le feu, qu'elle fit flamber en le soufflant par un long tuyau de fer, et se mit en quatre pour me préparer un souper. Par extraordinaire, il ne se fit pas attendre. Il est vrai qu'il consistait uniquement en une espèce d'eau trouble, servie sous le nom de soupe verte, et dans laquelle nageaient des herbes empruntées sans doute au flanc de la montagne, mais dont le goût était plus haut que délicat. À la fin de ce repas, que je trouvais un peu frugal après mes épreuves de la journée, mais qui présentait, je m'en assurais moi-même, tout ce que l'hôtel avait dans son office et son garde-manger, mon hôte me fit monter par un petit escalier de bois, m'ouvrit une porte basse et, me montrant une montagne de foin dans un vaste grenier, m'invita à bien m'y reposer en me souhaitant le bonsoir. J'avais eu trop peur de passer la nuit sur la pierre pour me plaindre de ce genre de lit. Seulement, j'eus soin de me placer dans un des angles du grenier et de m'entourer d'un triple rempart de bottes de foin, car il y avait au milieu de ma chambre à coucher un trou énorme destiné à faciliter les communications avec les tables en dessous, et je n'avais pas grande envie qu'en me retournant sur ma couche, un mouvement un peu brusque me fit tomber à cheval sur quelqu'un des animaux qui ruminait au rez-de-chaussée. Les incidents de la journée s'étaient chargés de me préparer une bonne nuit. Aussi fallut-il tout le bruit d'un village qui se réveille pour m'arracher à mon profond sommeil. Et le soleil avait déjà une bonne marche quand je commençais la mienne. Mon hôte me promit qu'elle ne serait pas si longue et si accentuée que celle de la veille. Et avec une modestie assez rare chez les gens de sa profession, il m'assura qu'avant le milieu du jour, je rencontrerai dans la ville un gîte et une table meilleure que dans sa maison. Je n'ai rien à dire de mes premières heures. Sur le papier, tous les voyages de montagne se ressemblent. C'est toujours une succession de forêts, de prairies, de rochers, que l'on traverse au murmure d'un torrent. Mais le voyageur n'a pas, comme le lecteur, à craindre cette monotonie. Chaque minute amène une révolution dans le paysage. Un rayon de soleil, un nuage qui passe, un pas de plus dans l'ascension ou la descente varie l'aspect du panorama et donne à tout ce qui l'entoure une nouvelle physionomie. À mesure que vous vous élevez, les objets changent de proportion. La montagne s'aplanit, le fleuve devient ruisseau, le torrent filet d'argent, et vous êtes étonné, en regardant derrière vous, de ne plus voir dans la forêt que vous avez mis une heure à parcourir qu'une petite touffe de verdure. Et puis mille pensées sortent de chaque angle du chemin, peuplent votre solitude et vous accompagnent. Le souvenir des absents, l'incertitude de ce qui vous attend à la fin de ce défilé, la menace de ce nuage qui va peut-être tomber en pluie, emporter les sentiers à demi tracés sur les pentes et interrompre votre marche. L'individu qui vous croise en vous saluant, le clocher que vous apercevez à travers le feuillage, et cette prise de possession de la nature dont vous vous emparez à mesure que vous avancez sur ces domaines, puisqu'elle vous abandonne tout ce que vous voulez en ce moment obtenir de la terre, des impressions vives et une profonde admiration. Tout cela me tenait bonne et douce compagnie, et ne me laissait pas voir la longueur et la rudesse de la route. J'ai en voyage une très dangereuse habitude. C'est la manie des petits sentiers qui doivent nécessairement abréger le chemin. Je l'ai toujours expié par de longs détours et de pesantes fatigues. N'importe, dès qu'elle se présente, la tentation est trop forte. J'oublie mon expérience et je retombe dans mes égarements. Aussi succombai-je ce jour-là aux séductions d'un joli petit chemin. D'après mes calculs, il devait diminuer au moins de moitié la distance qui me séparait encore de mon premier gîte. En suivant une ligne droite, pendant que la route, plus large et plus profondément creusée, paraissait se perdre en un long circuit. J'avais si bien calculé qu'après avoir escaladé 3 ou 4 montagnes, bu l'eau de 5 ou 6 torrents, traversé des prairies sans fin et des Alpes sans limite, je me trouvais, le soleil couché, ruisselant de sueur, harassé de fatigue, sentant tomber les premières gouttes d'un orage qu'annonçait depuis longtemps de sinistres éclairs, et ne sachant plus si, grâce à l'obscurité qui s'épaississait autour de moi, je n'allais pas me jeter dans un précipice ou dans un torrent. À cette heure-là, il faut le dire, le voyage perd un peu de sa poésie et de ses enchantements. Les charmantes impressions et les riantes images ont disparu. On ne songe plus qu'à gagner, à tout prix, un abri, et on donnerait tout le pittoresque du monde pour la table et le logement. Il vous traverse de temps en temps, pendant que vous luttez avec l'inconnu et les ténèbres, une pensée de regret pour le toit paternel, pour la sécurité du foyer domestique. Mais ces regrets et ces émotions font partie de l'intérêt du voyage. Ils donnèrent encore plus de prix à la douce surprise qui m'attendait au détour d'un petit bois. Au milieu de l'ombre universelle m'apparut tout d'un coup une splendide illumination. C'était la ville tant désirée et autour de laquelle m'avait fait tourner plusieurs fois mon chemin de traverse. Je la saluai d'un cri de joie. Je retrouvai les forces et la vitesse de la matinée et en quelques enjambées, je fis mon entrée dans la principale de ces rues.